prochaine. Donc il faudra tenir un an pour la suite de cette étude sur un personnage. On est bien, au travers des personnages bibliques, eh bien, voir comment ils ont vécu leur foi. Ils ne sont pas parfaits et c'est ce qui nous aide aussi à nous identifier à ces personnages. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Mais tous les personnages de la Bible, ils ont fait des erreurs, ils ont failli, comme nous. Et cela nous aide aussi à prendre courage. Mais chaque personnage de la Bible a quelque chose à nous apprendre. Et Samuel a beaucoup à nous apprendre. Et donc, merci Seigneur de ce premier enseignement cette année et pour celui de l'année prochaine. Dans Genèse, chapitre 3, versets 8 à 10, si vous voulez suivre, vous pouvez ouvrir vos Bibles. « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Une autre lecture se trouve dans Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 27. « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. C'est des marins, hein. C'est des gens qui sont des costauds. Hein. Ils poussèrent des cris. Il y a eu une frayeur. Et Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Cette parole, Seigneur, qui est là pour nous aider à comprendre qui tu es et ce que tu veux de nous et comment nous pouvons, Seigneur, nous rapprocher de toi. Seigneur, merci pour cette parole ce matin. Nous te la remettons afin qu'elle touche nos cœurs et que nous puissions encore être transformés à ton image, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Votre avis, quel est le thème de ce message ce matin? Vous voulez pas que je relise les versets? Quel serait, à votre avis, le thème? C'est un thème, hein. Les mois de la famille, c'est sur des personnages, donc on est tué. Mais souvent, les messages sont sur des thèmes. Quel est le thème que je veux aborder ce matin? C'est pour captiver votre attention. L'obéissance? Pardon? Qui a dit la peur? C'est la peur. Pourquoi? Parce que, simplement, dans ces deux passages, il est question de la peur. Hein? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Qui est-ce qui a dit ça? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Qui a dit ça? Jésus. Donc Adam, il a peur. Et Jésus dit? Adam, il a dit? J'ai peur. Et Jésus a dit? Voilà, le message est fini. Ah, c'est bien. Formidable, vous avez tout compris. Vous voyez, qu'on l'admette ou non, personne ne passe sa vie sans éprouver la peur, l'anxiété, la crainte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui n'a jamais eu peur? Lève la main. Jamais. Donc, c'est vrai. Hein, nous sommes tous dans des circonstances où nous pouvons, dans un domaine de notre vie, avoir peur. La vie des hommes est ainsi faite. Elle est souvent un état d'appréhension constamment exposé à la peur. Et cela depuis des milliers d'années. Vous savez, nous vivons dans un des pays, des 10 pays les plus riches au monde. Malgré un niveau de vie jamais atteint, jamais, à aucun moment de l'histoire, où nous aurions mille raisons de nous plaindre ou de craindre, nous avons des assurances de toute espèce. Il y a quelqu'un qui n'a aucune assurance ici, assurance maison, assurance voiture, toutes les assurances qui nous couvrent et qui nous protègent. Et pourtant, nous avons peur. Hein ? C'est vous qui l'avez dit, hein ? Vous avez peur. Voyez-vous l'image du sauvage africain, toujours heureux, toujours souriant, et peut-être plaisante, mais elle est fausse. Un écrivain américain du nom de Lowell Thomas a écrit ceci à propos de l'Afrique. Il a dit « Dès sa naissance, l'Africain vit dans la crainte. Crainte de ses ennemis, crainte de la maladie, crainte de la sorcellerie. Il a peur de la nuit, il a peur des esprits, et le soir il ferme les volets, non pas à cause des voleurs, mais à cause des esprits. » Et il continue en disant « Je m'attendais à ce que tout le monde en Afrique aille dormir tranquille. » Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde va se coucher dans la crainte. La crainte domine le monde. Elle pénètre la brousse africaine et atteint l'homme des cités modernes. Elle touche les villes enchanteresses de la Polynésie, aussi bien que les riches villes européennes et américaines. La peur fait partie de notre quotidien. Le monde entier connaît la peur. Et je crois qu'il ne serait pas juste de ne pas en parler. Il faut écarter un autre malentendu. Malentendu. La peur serait une sorte de tare morale, de preuve d'infériorité, de synonyme de lâcheté ou de couardise. C'est ainsi qu'on a inventé, hein, qu'on exalte les chevaliers sans peur. Vous connaissez ça ? Chevaliers sans peur ? Hein ? Quand on était tout jeune, hein, ce seraient des chevaliers qui n'ont pas peur. Sans peur et sans reproche. Voilà. Donc, voilà, c'est ainsi qu'on exalte ces chevaliers qui cultivera le mépris du danger et qui affronte le danger avec le sourire aux lèvres. Là aussi, l'image est séduisante. Mais il faut s'en débarrasser. Parce que dans certains cas et dans les situations de l'homme aujourd'hui, la peur peut être salutaire, on le verra tout à l'heure. Est-ce qu'on n'apprend pas aux petits-enfants d'avoir peur de l'eau, d'avoir peur du feu, dans certaines circonstances, d'avoir peur du précipice, d'avoir peur de la foudre, d'avoir peur de la circulation? La vue d'un fil électrique dénudé, qu'est-ce que ça vous fait? Ne pousse-t-il pas à couper vite le commutateur central? Correctement géré, il peut être utile. C'est vrai qu'au Canada, moi j'ai vu un électricien qui laissait tout allumé et qui travaillait avec les fils. J'ai dit, il pourrait peut-être couper le courant. Non, j'ai pas peur. Bien. Il travaillait avec tout le courant allumé. Un jour, un homme, à moitié ivre d'ailleurs, pour bien prouver qu'il n'avait pas peur, il est entré dans la cage d'un lion. Il n'en est pas ressorti. Quel automobiliste n'éprouve pas la peur du gendarme? C'est fou comme la vitesse diminue quand à l'horizon se profile, hein, un uniforme de gendarmerie. La peur peut aussi, dans certains cas, prendre des proportions démesurées. Elle peut devenir obsessionnelle. C'est ainsi qu'une femme, chaque nuit d'orage, avait tellement peur qu'elle ne pouvait pas rester dans son lit. Elle descendait dans sa cuisine où elle n'était pas moins en danger ou pas plus à l'abri que dans sa chambre, mais c'était irrésistible. Elle ne pouvait pas dominer sa peur. C'était une peur panique. D'autres développent des craintes d'ordre social. Ils ont peur de ne pas être traités avec toute la considération qui leur est due. Les hommes d'affaires, ils ont peur. Peur de ne pas faire face à la concurrence, peur de perdre leur clientèle, peur de perdre leur argent, leur capital. D'autres développent des craintes dans le domaine politique. Et on est en plein dedans. Nos hommes d'État ou de communes ont peur de leurs adversaires. Et ils n'hésitent pas à faire des compromis de conscience et sacrifier des principes moraux pour s'adapter à la mentalité des électeurs. C'est toute une histoire. D'autres ont peur de ce qui va leur arriver à leurs enfants, même s'ils sont adultes ou mariés. Ils ont des craintes pour leur progéniture. La Bible nous rapporte que Ponce Pilate avait devant lui un innocent, Jésus. Il le savait très bien. Mais quand on lui a dit « Tu n'es pas l'ami de César, de l'empereur », il n'a pas pu résister, il a capitulé moralement et envoyer au supplice de la croix celui qu'il savait être innocent. D'autres ont peur de ne pas être au goût du jour dans leur apparence extérieure, et ils gaspillent le peu qu'ils ont pour avoir la dernière voiture du dernier salon, pour être vêtus à la dernière mode, et certains vont même jusqu'à immoler leur vertu sur l'autel de la mode où trône leur idole favorite. Alors d'où viennent toutes ces peurs? D'où viennent toutes ces peurs? Bien, si on remonte à l'origine, et on l'a lu tout à l'heure dans la Genèse, cela nous est décrit dans les premières pages de la Bible. La peur, c'est le fruit perceptible de quoi? Du péché. La peur est le fruit perceptible du péché. C'est la première réponse de l'homme pécheur à Dieu. J'ai eu peur. J'ai eu peur. La peur est née avec le péché. Elle n'existait pas avant. Adam, Ève, qui marchaient avec Dieu dans le jardin, n'avaient pas peur. Et d'un seul coup, ils ont peur. Suite au péché. Le jour où, par son péché, il a en quelque sorte perdu Dieu, il a perdu sa sécurité et il a eu peur. Et du coup, tout le monde, dans la nature et autour de lui, tout lui paraît hostile. Il a vu des ennemis embusqués partout et la peur s'est étendue à tous les domaines de sa vie, au point de devenir parfois démesurée et transformée en peur panique. Vous connaissez la peur panique? Paranoïa. On a l'impression d'être entouré partout des ennemis. Le docteur d'un grand hôpital a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens anxieux mouraient plus vite que les autres. Mais que c'était là un fait indéniable. Un autre médecin a dit que la crainte était certainement l'élément le plus destructeur pour l'homme. Certains ont fait l'expérience suivante sur un chat. Ils ont donné un repas d'un certain type et l'ont passé devant un appareil, un fluoroscope, voyez, pour voir ce qui se passe dans son estomac. Et on pouvait voir la nourriture brasser régulièrement dans de belles vagues successives. Puis, ils ont emmené un chien dans la salle. Et immédiatement, la digestion s'est bloquée. Et quand on a répété cette expérience, le chat a commencé à développer un ulcère. Si la peur des choses sur un chat ne produit cela, bien plus forte raison aussi, qui est l'homme est beaucoup plus complexe qu'un animal, produit des choses semblables. Une institutrice qui avait développé des craintes obsédantes d'un certain ordre en a récolté un ulcère. Lorsque la crainte a été vaincue, l'ulcère a disparu. Un psychologue a dit: ce n'est pas la peur qui est naturelle à l'homme, c'est la foi. Un psychologue. On reçoit des enseignements des psychologues. C'est la foi. Je suis créé de telle manière que la peur et l'anxiété sont comme des grains de sable dans ma vie psychique. La foi, au contraire, est comme de l'huile dans les rouages. Elle me permet de mieux vivre. Nous sommes constitués dans notre système nerveux, dans nos cellules cérébrales, en vue de la foi. Et nous de la crainte. Vous le saviez, ça? C'est scientifique. Si on aborde maintenant des craintes plus importantes, la peur de la mort, la peur du jugement, la peur de l'éternité, la Bible nous apprend que c'est le péché qui a fait une séparation entre l'homme et Dieu. S'étant mis dans le camp de l'adversaire, l'homme s'est mis dans le camp de l'adversaire. Quand on pêche, on est du côté de Satan. Tout d'un coup, tout va basculer. D'un ami que Dieu était, il va devenir quelqu'un qu'on redoute. Et désormais, dans la conscience de l'homme, ces phrases du Nouveau Testament vont résonner. Notre Dieu est un feu dévorant, Hébreux 12. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu, Hébreux 10. Ou encore, à moi la vengeance, dit le Seigneur, à moi la rétribution. Et ceux qui ne sont pas guéris de certaines blessures du passé voient Dieu comme ceci, et c'est très très difficile pour eux d'être des chrétiens épanouis. Hérode aussi, le meurtrier de Jean-Baptiste, avait peur que son passé ne revienne à la surface. Ce qui trouble l'avenir de l'homme, c'est son passé. Comme Hérode, sa vie se peuplera de fantômes qui l'assailliront, et ces fantômes, issus d'une mauvaise conscience, lui feront craindre le silence. Il s'entourera du bruit, et quand cessera le bruit, il trouvera le silence insupportable. Il y a aussi une peur de l'avenir. L'homme a peur de l'avenir, des grands événements qui vont déferler sur notre monde, les guerres, les famines, les pollutions, l'écroulement des valeurs, la pollution. Et comme l'a prophétisé le Seigneur Jésus, pour des temps qui se sont dangereusement rapprochés dans Luc 21, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente des choses qui vont se passer dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut gérer la peur? Si oui, comment? Vous voyez, nous appartenons à deux mondes. Nous appartenons à deux mondes. Un monde naturel, nous sommes issus de la nature, de la poussière du sol, et un monde surnaturel. Quand nous devenons chrétiens, que nous acceptons Jésus dans notre vie, nous recevons quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est une surnature. Le Saint-Esprit fait partie de la divinité, au travers de la Trinité, de la divinité. Et lui, il n'est pas dans la nature, c'est lui qui a créé la nature. Regardez Genèse 1. Nous sommes en Adam, par notre héritage naturel, et nous sommes en Christ, par notre héritage surnaturel. Donc nous restons soumis à la peur, en tant que chrétiens, dans la chair. Et nous avons besoin de comprendre pourquoi nous avons peur et comment guérir et comment éviter les conséquences de cette peur. La science fait des progrès. La science, c'est pas une philosophie. La science, c'est pas de la politique. La science, c'est pas une idée. La science, c'est découvrir ce que Dieu a fait. Vous êtes d'accord? Les vrais scientifiques sont ceux qui découvrent ce que Dieu a fait, les lois. Et on a découvert les lois de la peur. Et c'est intéressant de le savoir. Alors, moi-même, qui suis scientifique, j'étais très choqué, très très choqué, parce que je pensais que j'étais un chrétien au-dessus de tout, vous voyez, surtout que j'étais jeune, en 82, c'est Florence Séné, 83. 82, 83, voilà. Et donc, en pleine forme, je pensais que, voilà, j'avais pas peur. En fait, voilà, au travail, d'un seul coup, du jour au lendemain, parce que en pleine nuit, mon chef a eu une révélation, une illumination, et puis le lendemain matin, il m'a convoqué, 7h du matin, il m'a dit, voilà, je te confie une unité de production de 200 personnes. Donc je suis passé de 4 personnes à 200, du jour au lendemain. Ça m'a stressé, mais je ne savais pas ce que c'était que le stress, vous voyez, j'ai l'habitude de faire face, voilà. Donc j'étais stressé. Puis au bout de certaines semaines, j'ai commencé à avoir mal ici. Mais mal. Je dis, ça y est, je vais mourir, quoi. Donc, je suis allé voir un médecin. Enfin, comment s'appellent les médecins qui sont pour l'estomac? Endocrinologue. Ouais. Il m'a consulté, tout ça. Et puis je m'attendais à ce qu'il découvre un cancer. Enfin, je sais pas, un truc grave, parce que vu la douleur. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Mais vous deux, vous êtes stressé. Je dis, quoi, moi? Ben non, je suis chrétien, moi. Enfin, au fond de moi, j'ai dit, attends, je ne suis pas stressé, moi. Je suis, voilà, je suis moi, quoi. C'est super, quoi. Ça marche, ça. On y va, quoi. Je dis, quoi? Stressé? Un chrétien peut être stressé? Ouais, pour moi, c'était une découverte. Hein. C'était vraiment, enfin, je vous le dis tel que je l'ai vécu. Et donc, lorsque j'étais mis en face de cette réalité, j'ai dû dire quelle est la solution. Il faut se déstresser. Mais voilà, j'avais toujours les responsabilités, donc quoi faire? Le Seigneur m'a appris à me déstresser et tout est parti. Tout est parti, comme par enchantement, avec l'aide du Seigneur. Parce que j'ai réalisé que je pouvais être affecté par ça. Vous voyez, pour moi, un chrétien, non. C'est pour ça, les préjugés, il faut faire très attention sur ce qu'on pense en tant que chrétien. Quand on pense être hyper spirituel, comme dit un dicton, qui fait l'ange. Voilà. Donc il faut faire attention. On va essayer de faire l'angle. Il faut rester soi-même. Donc j'ai réalisé cela, j'ai lâché prise sur mon boulot et voilà, j'ai fait du sport, enfin j'ai fait un certain nombre de choses que je vais vous dire après, qui peut aussi vous aider. Donc chaque fois, c'est pas moi, mais que quelqu'un entend, c'est un témoignage, le mot agression, son corps se met à trembler et il panique complètement parce que Clara a été victime d'une agression en pleine rue. Donc vous voyez, quand on a été victime dans le passé, ça peut produire ces choses-là. Autre témoignage, la seule évocation d'un souvenir douloureux est susceptible de revenir à la surface de façon très nette, même des nombreuses années plus tard. Parce que le corps peut se figer et garder l'empreinte de la peur. Les événements douloureux laissent des traces dans notre cerveau, dans notre mémoire, et les cicatrices ne s'effacent pas facilement. On sait que le cortex frontal, le cerveau, hein, maintenant on peut voir dans le cerveau, on peut, avec les moyens techniques, on peut voir les choses. Le cortex, ou le cerveau de la réflexion, de la pensée, est impliqué dans un mécanisme d'extinction pour éteindre, un peu comme les pompiers là, on a un pompier en face là, un pompier qui éteint les peurs conditionnées. Formidable ça. Le cerveau, il est fait comme ça. Donc, on peut éteindre les peurs conditionnées. Parce qu'il y a des connexions qui permettent d'accéder au contrôle d'une mémoire inconsciente, qu'on ne peut pas gérer, qui est là, qui a emmagasiné les peurs. Donc, notre cerveau utilise deux forces. Celle qui est reliée à la volonté, qui est issue du néocortex, ou conscient. On est conscient de ce qu'on fait par la volonté. Et l'autre, donc l'imagination, et l'autre issue du cerveau profond, qui est inconscient. Et donc il y a un mécanisme de bipolarité là qui se joue. Le mental peut ainsi apaiser ou créer l'anxiété en fonction d'un scénario imaginé. Donc tout dépend du scénario dans lequel nous sommes. La suggestion, l'imagination ou la relaxation permettent précisément la régulation entre ces deux cerveaux et améliorer les choses. Émile Coué, il y en a qui connaissent Émile Coué, hein, d'une certaine manière, mais dans sa méthode en 1910, donc ça remonte quand même à un siècle, il applique avec succès ce principe de suggestion et de l'imagination pour soigner ses malades. Il était convaincu que dans le cadre d'une suggestion consciente, eh bien, il pouvait aider à mieux trouver une harmonie dans la personne. David Servan-Schreiber, dans son ouvrage, augmente lui aussi que l'état de bien-être auquel nous aspirons tous s'établit grâce à la coopération entre ces deux cerveaux, le cerveau de l'émotion, qui donne de l'énergie, de la direction, et le cerveau de la raison, qui organise son exécution. J'essaie d'être un peu plus concret. Notre cerveau connaît une histoire. Il emmagasine une histoire. Quand on vit quelque chose, regardez, dans le cas d'un accident, même quelques secondes, il y a toute l'histoire qui s'emmagasine, même si ça dure une seconde, c'est emmagasiné. Nos expériences, c'est grâce à cela d'ailleurs, nous pouvons parler, le langage dont personne ne pourrait parler si on n'avait pas de mémoire. Donc, le cerveau enregistre ça. C'est lui qui structure la pensée et qui déclenche les émotions. Et c'est dans les émotions que se trouve la peur. C'est pas dans la raison. Ce qui nous fait peur, c'est la manière dont nous représentons les choses, dont nous imaginons les choses, ce que nous faisons des choses. Nos peurs sont la pure production de notre pensée et de notre imagination. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez une personne comme ça, à la simple vue d'une souris, quelqu'un peut s'évanouir. Une souris, hein, pas un rat. S'évanouit. Pour moi, c'est pareil, mon cœur s'emballe, pas tout rompre, j'ai l'impression qu'il s'arrête. Je ne peux rien faire. Il n'est pas question de transmettre cet héritage à ma fille, confiée Adèle, qui a peur des souris et qui s'évanouit à chaque fois qu'il en voit. Vous voyez, on est conditionné dans notre cerveau, bien que ce n'est pas systématique et ça n'a pas la même répercussion pour chacun. Chacun est différent. Certains sont très sensibles à ça, d'autres moins. Mais certains ont connu des semblables expériences lorsqu'ils étaient enfants et lorsqu'ils ont refoulé dans l'inconscient des choses qu'ils ont vécues à la suite d'un accident, d'un incident. Et d'un seul coup, ça revient, ça remonte à la surface. Pourquoi ? Parce que le cerveau de l'émotion, il ne désapprend pas aisément. Il garde ça en mémoire. Donc désapprendre, c'est très difficile. Donc les événements qui nous ont traumatisés dans le passé sont prêts à se réactiver s'ils ne sont pas effacés, s'ils ne sont pas guéris. En fait, la peur, et ça, on apprend ça quand on apprend comment fonctionne la peur, elle utilise un système nerveux sympathique qui pousse à l'action. En fait, Dieu nous a fait pour l'action. Il ne nous a pas fait pour l'inaction. Il nous a fait pour agir, pour bénir, pour faire du bien, pour faire des projets. Le problème, c'est que cette peur, c'est une fonction qui nous alerte. Elle est bénéfique ou elle est nocive. Par exemple, quand je vais traverser une route et que je regarde à droite et à gauche, que je regarde à droite et à gauche, il n'y a rien, et que je m'engage sur la route, et d'un seul coup, parce qu'il y a un virage, il y a un gros camion qui vient sur la gauche et moi je regarde à droite, la peur va me sauver parce qu'elle va me pousser avec l'adrénaline qui va sortir au travers de cette peur pour me donner la force, et c'est une force herculéenne, hein, c'est une force qui peut être décuplée par rapport à, vous ne pouvez jamais refaire ça, et qui peut vous projeter en arrière pour vous sauver la vie. Ça, c'est bénéfique, ça. Ça, c'est quelque chose. Mais si cette peur reste, si vous continuez à avoir peur, hein, alors en général, ce qui se passe, c'est que le camionneur, après, il vous engueule dessus, tout ça, forcément, parce que lui, il a eu peur de vous écraser. Bon, donc, il ne faut pas lui en vouloir, c'est naturel. Bon, donc, il ne faut pas vous rouspéter après lui. Il faut, voilà. Mais très souvent, on a des mauvaises réactions, parce que, voilà, on réagit sur le moment. C'est des peurs qui sont bénéfiques pour lui et pour nous, puisque tous les deux ont été sauvés. Mais si cette peur reste, c'est-à-dire si dans mon imaginaire, j'entretiens une image de peur et je continue à avoir peur, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va se passer tout simplement ce que Dieu a prévu. C'est-à-dire que au lieu que ça va vous sauver, parce que ça vous donne une force pour agir, et vous n'avez plus besoin de force pour agir, vous êtes sauvé. Okay. Mais vous allez entretenir avec votre imagination la peur et votre corps va continuer à produire de l'adrénaline. Et ça va vous tuer. Parce que le problème de l'adrénaline, c'est que ça aide en cas de sauvetage, vos muscles à réagir, mais quand elle est trop, c'est comme un poison. C'est-à-dire que ça irrigue votre système et ça vous détruit. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ulcères, qui développent en particulier au travail, des choses qui les détruisent de l'intérieur, parce que c'est un poison. Vous voyez ? Donc il faut tout de suite en sortir. À partir du moment où vous êtes sauvé, bah, il faut passer à autre chose. Il faut penser à des bonnes choses. Vous voyez ? Il faut que votre pensée aille vers d'autres choses, et pas rester bloqué sur votre peur. Parce qu'il y a des glandes qui agissent de cette manière-là. Alors certains, il y en a qui fuient. Ils ont peur, mais ils fuient. Ben, ça n'arrange rien. Parce que la fuite, vous partez avec votre problème, avec ce que vous avez dans votre tête. Et vous allez produire des choses ailleurs. Donc la fuite n'arrange rien. Il faut affronter la peur. Il faut faire face. Il faut maîtriser les choses. Alors les hommes, ils ont trouvé certaines techniques suite à ces constats, suite à ces recherches, suite à ces mécanismes. Alors, quelles sont ces techniques qu'ils ont trouvées ? Et c'est une certaine sagesse, parce que Dieu propose les mêmes. Et donc, on se rejoint. La science rejoint ce que Dieu dit dans la parole. Mais ça aurait été bien pour les chrétiens, déjà, de le trouver. Et certains chrétiens n'ont toujours pas compris, alors qu'il y a des inconvertis qui l'ont déjà trouvé grâce à la science. Alors, c'est quoi ? Eh bien, quand les hommes ont compris ça, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent de relaxer. Pourquoi la relaxation est proposée ? C'est parce que vos muscles, s'ils sont tendus et s'ils sont remplis d'adrénaline, ils vous tuent. Enfin, l'adrénaline vous tue, puisque c'est un poison, hein, à forte dose. Donc la relaxation associer un rythme tranquille, voyez-vous. Parce que quand vous avez peur, vous avez votre cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat. Hein, vous avez connu ça, quand vous avez peur? Le cœur qui bat. Moi, une fois, j'avais tellement peur que je pensais aller mourir simplement par le battement du cœur. Michel a fait la même expérience. C'est terrible. C'est une expérience incroyable. Je pensais aller mourir sur place à cause de la peur. Donc, relaxer, la relaxation, c'est une bonne chose. Hein. Faites comme les Chinois. Si vous êtes fatigué à Paris, bah, vous allez vous coucher par terre, vous mettez votre vélo, vous couchez par terre, faites la sieste. C'est ce qu'ils font là-bas. Et ils le font tous. Vous avez des vélos partout, et ils font la sieste, et ils se relaxent. Voilà. Le matin, ils font de la gymnastique, tout ça, voilà. Mais c'est bien, ils ont la bonne attitude. Hein. Relaxation musculaire. Et ensuite, l'autre technique qu'ils proposent, enfin le monde, c'est de penser à des bonnes choses. C'est pas formidable, ça? Et c'est pour ça que quand on sort dans la nature, hein, je sais que Noëlla aime beaucoup marcher, tout ça, voilà, mais c'est bien, ça. Vous voyez, parce que, regardez, tous ceux qui vont à Paris, ils trouvent les Parisiens horribles. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps pressés. C'est pas qu'ils sont, bon, ils sont méchants, c'est pas parce que, voilà, mais voilà, ils sont tout le temps sous stress. Voilà, il y a le métro qui va passer, il y a le machin qui va passer, etc. Il y a un boulot qui attend, il y a la grève, et qu'est-ce que je fais, etc. Voilà, c'est tout le temps sous stress, quoi. Ok? Mais ça tue. Donc, se relaxer, penser, voilà, à la belle nature que Dieu a fait, tout ça, penser aux des souvenirs agréables, des choses comme ça, ça, c'est ce qui permet d'enlever la peur. D'enlever la peur. Voyez-vous, les peurs sont appréhendées en rétablissant un juste équilibre entre la raison et les émotions. C'est pour ça aussi, il faut un peu de raison quand on est dans l'émotion, quand on est dans la peur. Et c'est pour ça qu'aussi Dieu a mis l'homme et la femme ensemble. Parce que l'homme et la femme ne fonctionnent pas pareil. Quand Michel a peur, j'ai dit, attends, hein, on va un peu raisonner, on va mettre les choses à plat. Voilà. Et l'inverse, moi j'ai besoin d'elle pour m'évader un petit peu dans des choses, voilà, des choses artistiques, des choses différentes, etc., pour que moi aussi, parce que la raison, c'est un équilibre, vous avez compris? Un équilibre entre les émotions et la raison. Donc toutes ces découvertes, et là je m'arrête là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, ne font que renforcer la démarche de relation d'aide chrétienne, qui vise à donner aux chrétiens un équilibre qui lui permet de vivre sa vie chrétienne le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'en dit la Bible? Qu'est-ce qu'en dit la Bible? Eh bien, si vous suivez la vie de Jésus, alors là, je ne prends pas un personnage humain, je prends un personnage qui est à la fois humain et à la fois divin. Jésus était issu de la nature et de la surnature. D'accord? Il était comme nous. Comme nous. À une seule exception, c'est laquelle? Il n'a jamais péché. Vous rappelez ce que j'ai dit? La peur est venue par quoi? Ok. Est-ce que Jésus avait peur? Non, pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché. Voyez-vous, Jésus est notre modèle, notre super-héros. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lui, il était exposé en toute chose aux mêmes circonstances que nous, mais lui ne réagissait pas pareil parce qu'il n'a jamais péché. Hello? Sa vie nous est rapportée dans les quatre évangiles. Et vous remarquez que la peur n'a jamais eu prise sur lui. Il a regardé ses concitoyens dans le blanc des yeux. Jésus n'a jamais regardé par terre, sauf quand il a dessiné. Ça, c'était pour mettre mal à l'aise ceux qui voulaient lapider la femme. Il regardait toujours dans le blanc des yeux. Il disait dans Jean 8, 46, « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Personne n'a pu le convaincre de péché. Et il n'a pas eu peur de poser cette question. « Lequel me convaincra de péché ?» Personne n'a pu mettre son doigt sur un élément négatif de la vie de Jésus. Un jour, quand il a traversé le lac de Génézareth dans une barque, il était à la poupe et il dormait, vous connaissez cette histoire, et soudain, il y a une tempête et des vagues énormes qui sont jetés sur le bateau. Et parmi ceux qui étaient là, il y avait des vieux loups de mer, pieds marins. Et ils étaient épouvantés. Alors imaginez ce que ça peut être, une tempête. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait paisiblement. Waouh! Waouh! Vous êtes capable de faire ça? Vous êtes capable de faire ça? Hein? Dans une tempête? Moi, je suis revenu du Canada avec Michel, parce que j'avais fait mon service militaire là-bas au Canada. Puis on voulait offrir une traversée. On s'est dit, peut-être plus jamais on le fera, effectivement, c'est jamais arrivé. Et on s'est offert une traversée qui a duré 12 jours du Canada en France. Et on a payé trois fois rien, parce que voilà, c'était un porte-container qui, d'ailleurs, a coulé il y a quelques années dans la Manche. Donc il n'existe plus. On était servis comme des rois là-dessus. On avait peur des tempêtes. Qu'est-ce qu'on va faire? 12 jours sur la mer. On passe près du Groenland, de l'Islande, on s'arrête en Islande, tout ça. Ben, c'était une mer d'huile, croyez-moi. C'est une mer d'huile. On n'a jamais vu ça. Une fois, ils ont commencé à accrocher tout. Ça y est, c'est mal parti, tout ça. Et en fait, non, c'est rien passé. Parce qu'on était sur le bateau. Non, je plaisante. Mais on n'a pas connu la tempête, en tout cas. Là, ils ont connu la tempête. Alors ils l'ont réveillé. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il a paniqué? Est-ce qu'il a gueulé? Est-ce qu'il a... Voilà, sur cette tempête, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on est supposé de faire. Rappelez-vous dans le jardin, Dieu a créé l'homme. Pour quoi faire? Pour gérer? En prenant autorité, en dominant. On n'est pas supposé être dominé. On est supposé dominer. Dominer la nature. Dominer les choses. Ok? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Il ne fait pas un grand discours. Il ne dit pas à ses disciples, voilà, vous êtes minables. Il se lève et il dit, tais-toi! Waouh! Tempête se tait. Waouh, c'est ça. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est pour dominer. Les éléments se sont calmés. Si nous suivons Jésus dans le tribunal qui allait décider de son sort, sort affreux, hein, sa sérénité a surpris Pilate. Pilate n'en croyait pas ses yeux de l'attitude de Jésus. En effet, ce au magistrat qui était délégué de Rome pour conduire la politique en Israël, il a été dans la crainte. Qui est-ce qui a eu peur? C'est pas Jésus, c'est Pilate. Il était dans la crainte. Et sa crainte se transforma en frayeur à mesure que se déroulait le procès. Or, au tribunal, en général, il y en a qui ont, à part Arnaud, qui était dans les tribunaux. Moi, j'étais jamais, donc je ne peux pas en parler. Il y en a qui étaient dans les tribunaux. En général, c'est le contraire. Est-ce que le juge a peur pour lui? Ben non, c'est l'accusé qui a peur. Qu'est-ce qui va lui tomber dessus? Quel est son verdict et tout ça? Mais là, c'était l'inverse. Ouais, intéressant. La peur, c'est pas Jésus qui l'avait, c'est le juge. Le Seigneur Jésus n'a jamais connu la crainte parce qu'il n'a jamais connu le péché. Et pourtant, quand on le suit jusqu'au bout, dans sa carrière, dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant le supplice final, la Bible rapporte qu'il a vécu une agonie mortelle. Une agonie mortelle. Et son sang, sa sueur est devenue quoi? Du sang. Voyez-vous, la peur, là c'est une peur extrême, peut devenir du sang. Il était à l'article de la mort. Pourquoi? Parce qu'il voyait s'approcher. À ce moment-là, il n'était pas supplicié. C'est simplement la peur. Jésus a eu peur parce qu'il voyait s'approcher une coupe qui lui faisait horreur. Et là, il a demandé à son père, il a dit, « Père, si c'était possible que cette coupe... c'est loin de moi. » Voyez-vous, là, il a vécu la peur. La peur de boire cette coupe. Et quand on prend la coupe, rappelez-vous de cette peur. Jésus, la première fois de sa vie, a eu peur. Une peur tellement forte que sa vie a failli être prise par l'agonie qu'il a vécue. Devant cette coupe qui lui était tendue, à trois fois, il a demandé, « Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Non seulement le Seigneur a pris notre péché, mais il a pris les conséquences de notre péché. Voyez-vous ? Même les conséquences, il les a pris. Et la peur était l'une des conséquences du péché. Et il a pris la peur sur lui, dans le jardin des Gethsémané. Et quand il était accroché entre ciel et terre par les clous sur la croix, il a poussé ce terrible cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mes amis, toutes ces peurs dont nous avons parlé, qui viennent du fond des âges, elles ont fondu sur lui. Car la Bible nous apprend que lui, le juste, a été fait péché pour nous. Il a été fait péché pour nous. Il les a portés pour nous. Il les a pris à son compte pour pouvoir dire à ceux qui avouent leurs péchés, les confessent. C'est pour ça hier j'ai dit aux futurs baptisés, il faut confesser ses péchés. Parce qu'en les confessant, on les reconnaît comme étant des péchés et on les laisse à la croix. Il a dit, je vous donne ma paix. Voyez-vous, la paix, c'est une réponse à la peur que nous avons. Et Jésus donne la paix. C'est le prince de paix. Amen. Et l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, a pu dire, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Voyez-vous, c'est la paix. On n'a pas besoin d'avoir peur du jugement. Le jugement était fait. Jésus l'a porté. Cette paix que Jésus donne, hein, ce chant, ou que la paix que Jésus donne, se trouve là où il a perdu la sienne. C'est-à-dire à la croix du calvaire. C'est là qu'il faut venir, devant cette croix. Devant cette croix, dans l'attitude de la repentance, dans la confession du gâchis de notre vie, et dans la foi à ce qu'il a fait par amour pour nous. C'est la paix, dans la paix, que se trouve le Seigneur. Et c'est pour ça qu'une église devrait être un lieu de paix. Un lieu de paix. Pas un lieu de peur, un lieu de paix. Les résultats de ceux qui se tournent dans cette attitude vers le Seigneur sont étonnants. Fernand Legrand, un évangéliste que j'ai connu quand j'étais jeune, a connu toute une histoire de sa vie, des peurs incroyables. Elles ont disparu au moment de sa conversion. Lorsqu'il a été pardonné, lorsque de son âme a été sauvée, il a reposé en paix. Et c'est l'expérience de ceux qui sont dans une peur extrême. Ils reçoivent la paix. Je pourrais citer beaucoup de témoignages de gens qui, comme cette femme par exemple, à la pensée des choses qui vont nous tomber dessus dans notre siècle, il y a tellement de choses, des guerres partout, cela me faisait suer d'angoisse. Mais elle a trouvé le prince de paix, son angoisse s'est envolée. Je citerai les disciples, les premiers disciples. Leur Seigneur était pris, vous êtes d'accord ? Jésus était pris, condamné, crucifié. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non ? Oui, ils se sont sauvés, oui, mais ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Ils se sont barricadés. Ils se sont placés derrière des portes, des fenêtres fermées à double tour dans une chambre au premier étage. Et là, enfermés sur eux-mêmes, ils guettaient les bruits, ils écoutaient les bruits dans la rue. Et ils avaient peur. Ils ne dormaient plus, le sommeil les quittait. Parce qu'ils craignaient qu'une patrouille allait passer, vous savez, comme la Gestapo. Hein, ma grand-mère a connu ça, m'a raconté. Et qu'ils allaient être poursuivis, arrêtés à leur tour. Parce que leur chef avait été exécuté. Ils pouvaient l'être à leur tour. Et tout d'un coup, que se passe-t-il ? Le Seigneur qu'ils croyaient mort leur est apparu vivant. Et qu'est-ce qu'il a dit ? La paix. Voyez-vous la peur ? La paix. N'ayez pas peur. La paix soit avec vous. Voyez-vous, Jésus amène la paix. La paix soit avec vous. Et quand ils ont compris, voyez-vous, que ça passe par comprendre aussi des choses. Ils ont compris que Jésus était vivant, qu'il avait triomphé même de la mort, que le pardon promis par Dieu était devenu une chose réelle et accomplie, quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, dans leur cœur, alors les poltrons d'hier, même des barbus chevronnés de la mer, mais des poltrons, eh bien qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils sont devenus des conquérants. Alléluia. Des conquérants pour le Seigneur et pour son royaume. La peur, la crainte, l'anxiété étaient bannis de leur vie et étaient remplis de paix. Amen. Au point d'être crucifiés à l'envers pour Pierre, d'être martyrisés, mais ils n'avaient plus peur. Alors, et vous, la peur, c'est pas la méthode Coué, c'est vraiment le Seigneur qui vient dans nos vies et qui nous transforme. Être battu pour eux n'était plus un sujet de crainte. C'était un sujet de joie. Heureux qu'ils étaient d'être estimés dignes de souffrir pour leur maître, pour leur Seigneur. Et l'un d'eux a écrit ceci dans Philippiens, « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, m'est un gain, absent de corps, mais présent avec le Seigneur. » Tout en eux était bouleversé, tout. Parce que non seulement Jésus était vivant, mais parce que le Saint-Esprit était venu habiter en eux. Les choses anciennes qui apportaient la crainte, l'anxiété, la peur étaient passées. Il y avait fait place à des choses nouvelles qui étaient la paix, la sérénité, la certitude de la vie éternelle. Un jour, je crois que c'est Fernand Legrand qui raconte ça, il y avait beaucoup de monde dans des soirées d'évangélisation sur Lyon, parce qu'il parcourait toute la France. Et tous les soirs, le prédicateur appelait ceux qui voulaient se convertir, hein, à se lever, à s'avancer jusque devant l'estrade. C'est comme ça que se pratiquent les réunions d'évangélisation. Et tous les jours, il y a eu des réponses à l'appel. Sauf un certain jeudi soir, où personne ne s'est avancé. Sûr, les organisateurs étaient un peu déçus. Il ne s'est rien passé ce soir-là. Il n'y a pas eu de personne qui a répondu à l'appel. Mais ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est que dans la salle, il y avait un truand lyonnais. Vraiment le truand, hein, qui poignardait les gens, les tuait. Et cet homme-là était venu là pour la première fois et s'est converti à Jésus dans son cœur. Il ne s'est pas avancé, dans son cœur. Il reçut Jésus dans son cœur, dans son sauveur. Il entra de ce qu'on appelle dans le milieu. Il est rentré de nouveau dans son milieu après cette expérience. Et il raconta aux autres truands ce qui s'était passé ce soir-là. Et il ajouta, « Maintenant, pour vos mauvais coups, il ne faut plus compter sur moi. » Et les couteaux jaillirent et il fut poignardé et mourut ce soir-là à l'hôpital. Comment est-ce qu'on a connu cette histoire ? Simplement parce qu'un médecin stagiaire ou un interne de l'hôpital qui est venu assister aux rencontres d'évangélisation, un soir il s'est avancé pour raconter ce que 3 jours plus tôt il avait reçu dans son service un truand blessé mortellement qu'il avait assisté jusqu'au bout. Et ce médecin stagiaire dit « Moi qui ai vu tant de gens mourir dans l'angoisse, jamais je n'ai vu un homme qui fut un truand mourir dans une telle paix. Il était parti à la rencontre de son Seigneur avec la paix dans son cœur. Comme le brigand, rappelez-vous, qui a crié à la croix, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Et le Seigneur lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Quelle paix. Extraordinaire. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut marcher dans l'esprit. On fait le torrent qui purifie. Marcher par l'esprit. Alors, marcher par l'esprit. On le sait. On le sait. Et pourtant, on laisse la peur nous envahir. Et pourtant, si maintenant on sait que si la peur, on la laisse, peur de quoi ? Ma peur de ce qu'on imagine, souvent d'ailleurs à tort, parce que c'est pas toujours ce qui arrive. Alors je ne parle pas des peurs légitimes. C'est vrai que si aujourd'hui on avait des soldats qui étaient là, peut-être comme en Ukraine, qui sont portes, bon, il y a certains moments donnés, bon, il y a certaines peurs légitimes, il faut faire face. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle des peurs au quotidien que nous avons tous. Alors, si nous laissons ces peurs-là nous laisser dominer, eh bien, notre corps va en subir les conséquences, comme je vous l'ai dit. Et j'aurais pu développer beaucoup plus cet aspect-là. Mais je vous renvoie au classique, vous pouvez vous-même vous renseigner là-dessus. Mais si nous voulons avoir une vie agréable, si nous voulons avoir un corps sain, pour être capable d'être des témoins de Jésus-Christ, capable d'être des ambassadeurs dans notre monde, capable d'être dans la sérénité et pas d'être dans ce stress permanent qui nous ronge de l'intérieur. Et vous savez que ça fatigue énormément. Vous avez déjà remarqué que vous êtes complètement fatigué, que vous êtes dans la peur. Allô ? Vous avez remarqué ça ? Est-ce que vous aimez être fatigué ? Vous n'avez pas envie de peps, d'énergie, vous n'avez pas besoin de prendre des barres de Mars. Prenez la paix que Jésus donne. Alors, la paix. Pensez à des bonnes choses. C'est pour ça, remplissez-vous de versets le matin, pour que vous puissiez les ressasser. Pensez à des beaux souvenirs. Pensez à votre rencontre, quand vous avez rencontré votre dulcinée. Voilà, vous rêvez. Mais oui ! Mais ne pensez pas au stress quotidien, aux peurs, aux problèmes peut-être qui peuvent arriver. Hein ? N'attendez pas que des psychologues vous disent ces vérités-là. Elles sont vraies. Donc, prenez-en de la graine. Okay ? Et donc, rappelez-vous que la peur, elle vous détruit. Et que ça ne sert à rien d'être dans la peur. Au contraire, Jésus n'a jamais vécu dans la peur. Jamais, jamais, jamais. Amen. Et il ne veut pas qu'on vive dans la peur. Il y en a qui me suivent là ? Vous avez envie de vivre cela ? Alors ce ne sera jamais parfait, c'est clair. Mais si nous pensons à cela, si nous comprenons ces mécanismes, et si nous quittons tout ce qui nous fait peur pour aller vers ce qui nous rassure, hein, pensez à ces versets. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours. Si Jésus, qui n'a pas peur, je me rappelle toujours ce témoignage de John Wimber, hein, on a beaucoup été marqué par lui, ses enseignements. Et lui, il était petit, hein, il était, bon, pas comme Cathy, mais voilà, il était petit, mais assez imposant. Hein, voilà. C'était un musicien hors pair, hein, il jouait 20 instruments de musique, hein, c'était l'artiste complet. Mais il a une simplicité. Il a dit, moi, quand j'étais petit, j'avais peur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ma cour d'école ? Ben, je cherchais un grand gaillard. Vous savez, aux États-Unis, il y a des grands, hein, des balèzes, hein, jusqu'à 2 mètres, avec 150 kilos. Il s'appelait Hugo. Hugo. Il disait, quand j'avais un problème, je criais « Hugo !» Et il venait, hop, tous les gars m'ont sorti. Tranquille. Hugo ! Il était tranquille. Vous voyez ? Il n'a pas peur. Il avait Hugo. Bien sûr, il a transmis à Jésus ce qu'il a fait après. Mais il était la même trempe en prêchant Jésus qu'en appelant Hugo, parce qu'il avait compris. Alors, vous avez Jésus. Appelez Jésus dans vos circonstances de peur. Alors, lui, il n'a pas peur. Lui, il prend maîtrise sur les éléments et les calme. Lui, il amène la paix dans les circonstances où vous avez peur. Alors, ça vous évitera de payer des psychologues, des psychiatres et tout ça, qui vous diront ça. De toute façon, il l'a découvert aussi. Voyez. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la science, la vraie science, on découvre ce que la Bible dit. C'est toujours ce que j'ai remarqué. Pour ça, j'aime bien la science, qui confirme la parole. Et elle le confirme toujours. Parce que sinon, ce serait faux. Tout ce que nous pensons serait faux. Voyez-vous ? Donc moi, j'aime la science. Parce que la science, elle confirme la foi. Elle ne la contredit pas. Elle la confirme. Mais c'est par la foi que nous marchons. Parce que c'est par la foi que nous saisissons des vipères. Alors, vous pouvez saisir des vipères ? C'est ce que dit la parole. Que vous pouvez boire des poisons. Voilà. C'est par la foi. La foi, ce n'est pas des exploits pour vous faire mousser. La foi, ce n'est pas pour dire « Waouh ! Waouh ! Bon, je suis le chrétien. » Non. C'est simplement parce que quand vous êtes dans une situation de peur, vous prenez autorité dans cette situation. Voilà. C'est fait pour le quotidien, la foi. Et la foi, vous pouvez dire à cette montagne « Tu te déplaces au nom de Jésus. » Et vous restez dans la paix. Et vous avancez dans la foi. Et vous avancez dans la victoire. Amen. C'est ça que Dieu veut. Il veut que dans ce monde, nous ne soyons pas des gens qui palabrent sur la religion, qui palabrent sur « Ouais, ça c'est pas bien, ça c'est... Voilà, ta religion n'est pas bien. » Non. Vous n'avez pas à parler des autres. Vous êtes ce que vous êtes. Et vous marchez dans la victoire de Jésus avec autorité et sans peur et sans reproche. Et là, vous êtes un vrai chevalier. Amen. Le chevalier du Seigneur. Amen. Il y en a qui veulent être chevalier du Seigneur ce matin ? Je vous invite à vous lever. On va prier. Et prier pour ceux qui sont dans la peur ce matin. Amen. Comme tout le monde est debout, il n'y a personne qui a besoin d'être debout. Alors, comme dans cette évangélisation à Lyon, personne ne sait qui a peur aujourd'hui. Peut-être tout le monde a peur. Tous, nous avons une crainte et nous voulons remettre ces peurs au Seigneur. Il y en a qui veulent remettre ces peurs au Seigneur. Dire, Seigneur, délivre-moi de la pensée. Parce que la peur vient de la pensée. Hein? Rappelez-vous ce que j'ai dit. C'est la pensée. La parole de Dieu dit, soyez renouvelés dans vos pensées. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés. Et voyez-vous, la parole de Dieu, elle est scientifique. Et il nous dit vraiment ce qui se passe. Et s'il faut renouveler dans nos pensées, ça veut dire qu'il faut penser à des choses bonnes, agréables, des choses qui édifient, des choses qui font du bien. Amen. Et quand nous sommes dans cette attitude, la peur s'en va. C'est magique. Vous n'avez pas besoin de lutter contre la peur. Simplement, elle s'en va. Elle s'en va. Amen. Et vous, vous êtes dans la victoire. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Ta parole le dit, l'affirme, et nous avons toutes les preuves que toi, Seigneur, tu n'as jamais eu peur. Mais Seigneur, tu as pris notre peur, tu as pris notre angoisse, et tu as failli agonir à cause de cette peur que tu as pris sur toi, Seigneur, nos peurs. Et Seigneur, lorsque nous venons à toi ce matin, eh bien, nous pouvons être délivrés de nos peurs. Je te prie, Seigneur, pour mes bien-aimés qui sont là ce matin, afin que dans chacune de leurs situations de peur de l'avenir, peur de perdre le travail, peur que les enfants ne tournent pas bien, peur qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, peur que le lendemain, il y a des factures qui vont tomber, qu'on ne pourra pas payer, peur de toutes sortes, Seigneur, que tu les aides. Tu les aides à détourner leurs pensées de ces peurs, de ces choses qui font peur, pour les tourner vers des choses, Seigneur, qui sont bonnes, de voir les factures payées, de voir les enfants épanouis, de voir, Seigneur, d'imaginer ces choses-là par la foi, parce que, Seigneur, par la foi, nous pouvons saisir des réalités qui n'existent pas, mais qui vont exister. Seigneur, c'est ça la puissance de la foi. Je te demande, Seigneur, de les aider à rentrer dans la foi et être libérés de ces peurs, parce que automatiquement ils le seront. Seigneur, aide-les par ton esprit, comme tu l'as fait pour les disciples, Seigneur, qui sont entrés dans la dynamique de la victoire et où toutes les peurs ont été balayées de leur vie. Et ils ont pu aller jusque devant la mort, parce que, Seigneur, ils étaient dans la sérénité et dans la paix. Seigneur, fais de nous des chrétiens de cette trempe, des chrétiens, Seigneur, qui osent, Seigneur, affronter les choses difficiles sans peur. Parce que nous savons que si tu nous demandes de les affronter, c'est que tu as une issue pour nous en faire sortir. Et nous te remercions pour cette victoire que nous avons déjà acquise, Seigneur, et qui est la nôtre. Tu bénis mes bien-aimés et tu les aides chacun, Seigneur, pour eux-mêmes à prendre cette victoire et à la vivre au quotidien durant toute cette semaine et les semaines qui viennent, qu'ils puissent persévérer dans cette attitude, Seigneur, de victoire. Je te le demande au nom de Jésus.